Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des Écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale car nous passerons cette heure avec le prix Nobel de littérature Orhan Pamuk. Orhan Pamuk est né en 1952 à Istanbul. Il est l'auteur de plusieurs romans et récits qui ont marqué la littérature, comme Neige, comme Mon nom est rouge, comme Le musée de l'innocence. Superbe roman. C'est le plus grand écrivain turc et c'est même l'écrivain turc par excellence dont tous les livres brûlent du parfum du Üzün, cette mélancolie stambouliote au charme enivrant, dont tous les livres aussi ne cessent de creuser en archéologue et de redonner à voir en architecte la passionnante histoire de son pays et de ses habitants, tiraillés entre Orient et Occident, religion et armée, islam politique et laïcité. Orhan Pamuk est aussi un homme qui n'a jamais manqué de courage quand il s'agit de s'exprimer sur les événements politiques qui secouent son pays, au point d'avoir été accusé d'insulte à l'identité turque par le régime et même menacé de mort pour ses prises de parole sur l'Arménie ou les Kurdes. Et pourtant, c'est peu dire qu'il n'aime pas ça, parler politique, répétant inlassablement et nettement qu'il n'est pas journaliste, mais qu'il écrit des romans et n'aspire qu'à la tranquillité nécessaire à la création. Orhan Pamuk est aussi un écrivain qui a réussi un miracle de fiction et de réalité, un miracle de volonté, en donnant vie dans le quartier de Çukurcuma à Istanbul, au musée de l'innocence qui était d'abord un roman. Un musée comme un roman, pour un roman comme un musée. Aujourd'hui, il publie un nouveau roman, Cette chose étrange en moi, chez Gallimard, doublé d'un magnifique cahier de Lerne qui regroupe un certain nombre de ses textes, de textes critiques aussi, sur son œuvre. Bonjour Orhan Pamuk.
Bonjour.
Alors, dans ce cahier de Lerne, j'ai été très surpris, très beau cahier de Lerne, où il y a cette phrase d'un texte de vous, « Écrire, c'est prendre une sorte de revanche sur une vie qu'on ne vit pas. »
That's Borgesian. Look at the world.
C'est très à la Borges.
I am, if somehow feel that I have enjoyed life.
Je sens que j'ai eu plaisir à ma vie beaucoup plus que Borges. Borges a projeté son image d'un homme qui n'aime pas la vie. Il savait comment dramatiser les choses et dramatiser ses contradictions humaines. Et moi, j'aime beaucoup Borges, mais moi, je suis un écrivain heureux.
C'est le terme de revanche qui est surprenant.
Oui, j'étais quelqu'un de littéraire. Entre 18 ans et 38 ans, oui. Et je pense que mes livres montreraient que je n'aime pas la vie. Mais en fait, non, ma vie et mes livres sont quelque chose de très agréable. Je suis heureux d'avoir passé tellement de temps à regarder une page blanche et chercher à illuminer la vie des autres.
Alors cette chose étrange en moi est un très beau roman qui nous raconte plus de 30 ans de la vie d'Istanbul, la ville où vous êtes né, Orhan Pamuk. On y suit une famille turque à travers le destin de l'un de ses membres les plus singuliers. Il s'appelle Mevlut. Il est vendeur itinérant de yaourt, de boza, on va en parler, de la boza. D'autres plats aussi cuisinés, vendeur de rue. La boza, c'est une boisson fermentée à base de céréales qui était très appréciée dans l'Empire ottoman. Mevlut, il est volontiers contemplatif. Il est venu d'Anatolie pour travailler avec son père, lui aussi, vendeur de boza, dans cette grande ville qui le ravit par le labyrinthe de ses rues, qu'il arpente la nuit. Comme vous, vous aimez d'ailleurs le faire, Orhan Pamuk. Vous êtes un grand marcheur, un écrivain marcheur.
Jusqu'à ce que ma fille naisse, en 1992-1993, je travaillais jusqu'à 4 heures du matin. Et puis, Dostoïevski le faisait aussi, en buvant beaucoup de thé et en fumant. Et de mon bureau jusqu'à la maison, j'avais l'habitude de marcher parmi les meutes de chiens, les ombres de la vie, les rues sombres, avec des affiches politiques qui véritablement placardaient les rues d'Istanbul. C'est la moitié de l'esprit de ce livre. Un homme seul, marche
in the back streets of the town,
dans les petites rues de la ville.
In this novel, my character,
et
my
dans class, ce roman, mon personnage, par sa classe sociale, par la géographie, par son origine, et principalement par sa religion et les rituels de la vie, n'est pas comme moi.
Donc,
j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches pour ce livre. Pour ne pas connaître mon personnage de loin, Mevlut est à la fois un marchand de yaourt. Et vous savez, le soir, il vend aussi de la beza. Et c'est une boisson légèrement fermentée de l'époque de l'Empire ottoman, avec un petit intérêt romantique que ça soit encore vendu dans les rues d'Istanbul, parce que c'était très légèrement alcoolisé. Et les Ottomans autorisaient cela en tant que politiquement correct, parce que l'islam n'accepte pas les boissons alcoolisées. Mais ce livre est ma tentative de voir ma ville d'un point de vue des classes inférieures. Comme moi, je suis né à Istanbul, il y avait 1 million d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 16 millions. Qui sont tous ces gens-là? Ce sont les gens modernes qui ont fait Istanbul. Qui sont-ils? Et pour moi, c'est très important de faire une différence, une distinction avec mes romans précédents, qui sont plus nostalgiques, qui regardent Istanbul du point de vue des classes moyennes laïques, dans des beaux quartiers, quartiers dans lesquels moi je suis né et où j'ai grandi. Et cette fois-ci, je me suis dit, cette fois-ci, mon devoir moral, éthique, n'est pas simplement de s'exprimer soi-même, mais aussi d'exprimer quelles sont les idées de ceux qui ne sont pas comme vous.
C'est intéressant, vous dites qu'il y a un devoir éthique du romancier. Moi, je me souviens de la grande phrase d'Oscar Wilde qui disait « Il n'y a pas de roman moral ou amoral, il y a un roman bien écrit ou non. »
J'aime et j'admire Oscar Wilde vraiment énormément. Et à chaque fois que j'entends son nom, je souris. Mais je ne suis pas d'accord, pratiquement, et particulièrement en France, qui a inventé les contes moraux de La Fontaine jusqu'à Albert Camus. Vous savez, l'écriture française est la plus éthique. Nous aimons tous Oscar Wilde, mais moi je suis en désaccord avec lui sur cette phrase. Le problème avec l'éthique et le roman, et peut-être que Oscar Wilde critiquait cela, de juger les personnages dans un roman historique avec l'éthique de l'écrivain. Moi, je ne le fais jamais. Chaque personnage doit être jugé par l'aura de la culture au sein de laquelle il vit. Eh bien, moi, ce sont des sujets que j'aime bien traiter. Mais ce roman est plus un roman épique, c'est un panorama. Donc, ce n'est pas quelque chose de à la Albert Camus ou à la La Fontaine. Non, c'est pas un roman moral. Certains de mes romans sont plus éthiques, oui. Mais ce qui fait qu'un écrivain est moral, ce n'est pas qu'il est défini à une certaine morale ou à une certaine critique de la société, non. L'art du roman est fondé sur la capacité humaine de s'identifier avec des gens qui ne sont pas comme vous. Parfois on appelle cela comme la compassion, et on écrit des romans pour cela, et des choses que seuls les êtres humains peuvent faire. Et de voir le monde dans lequel on vit. Ici, on est par exemple dans les bureaux de Gallimard, et de voir le monde à travers les yeux des autres. Moi, je veux voir mon Istanbul du point de vue des classes plus inférieures à la mienne, et aussi d'écrire mon Istanbul, parce que ça fait partie aussi de mon Istanbul.
Alors, vous parliez des personnages, Orhan Pamuk, ce personnage, Mevlut, il lui arrive quelque chose d'insensé, peut-être de tragique, c'est le destin, mais il va retourner d'ailleurs ce destin. Au mariage de son cousin, il croise le regard de la plus jeune des deux sœurs de la mariée, et aidé par son copain Ferhat, qui est un personnage très important, qui est très impliqué dans la politique, très d'extrême gauche, il lui écrit à cette jeune fille des lettres passionnées qu'ils conduiront à un projet fou, lui proposer à cette jeune fille de l'enlever pour l'épouser à la barbe de son père. Hélas, ce n'est pas la bonne jeune fille qui l'enlève, et pourtant il va en tomber amoureux, et à travers Mevlut, beau comme un enfant, dites-vous, vous nous invitez à réfléchir sur ce qui sépare la naïveté, dont tout le monde accuse Mevlut, de l'optimisme que Mevlut revendique. Est-ce que c'est un Candide façon Voltaire ou un idiot façon Dostoïevski, Mevlut?
This is the heart of this book.
Eh bien, c'est le cœur de ce roman. Et véritablement, c'est tellement équilibré dans mon personnage. Moi, je ne suis pas tellement fier de cela, mais bon, inventer un personnage, de le rendre singulier, intéressant, c'est la chose la plus intéressante et la plus difficile à faire. Mais Vlut a des affinités avec les personnages classiques de la littérature, des naïfs comme Julien Sorel, de Stendhal, a cette mobilité de la classe supérieure. Il voit des choses, il se place au sein du monde, et Mevlut possède ces qualités, mais il est moins doué que l'idiot de Dostoïevski qui veut être la bonne personne, influencé un petit peu par le côté christique, avec le bien. Est-ce qu'il est possible d'être bon tout le temps? Mais Vlut a aussi, je pense, ce côté, cet aspect. Et Mevlut a aussi un petit peu des traits de la naïveté du Candide de Voltaire. Parfois, il pose des questions. Que j'aime bien d'ailleurs, à la Voltaire. Et en fait, vous savez, des choses qui sont bien pour notre peuple. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens croient en Dieu, par exemple? Des questions très naïves. Mais il y a une vérité là-dedans. Moi aussi, je crois que j'ai été Mevlut aussi parfois. Je posais des questions très naïves. Peut-être qu'il y aurait des gens qui pourraient être très populaires s'ils disaient véritablement ces questions-là en public. Mais ce n'est pas un roman d'idées, c'est un roman de choses. J'ai vu une mer, un océan de choses dans mon Istanbul, dans la naïveté des classes ouvrières, de voir les petits magasins et les gecekondu. Ah oui, les bidonvilles, comment ces gens qui viennent d'Anatolie et qui ont construit ces petites baraques de leurs propres mains au début des années 60. Moi, j'ai vu ces bidonvilles qui faisaient des petites briquettes, et puis qui nous parlaient, par exemple, pendant ce temps-là, ils construisaient des petites maisonnettes, et c'était des gens des classes inférieures aux yeux de ma famille, de ma mère. Et maintenant, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Mais moi, je ne voulais pas être comme un écrivain qui regardait les pauvres du haut de sa fenêtre ou regardant des gens beaucoup plus pauvres que le lecteur. C'est un problème éthique aussi dans la fiction.
Alors, c'est un roman d'amour aussi, c'est un roman qui interroge le sentiment qui étreint tous ceux qui voient leur environnement changer brutalement. On est plongé dans la transformation de la ville, les vieux quartiers qui disparaissent, les mosquées énormes qui se construisent, les gratte-ciels, la corruption est là aussi, les règlements de compte. Mais surtout, on y rencontre les femmes de Turquie. Comment elles cuisinent, comment elles font l'amour, comment elles blaguent, comment elles s'imposent malgré la pression sociale. Elles n'ont peur de rien, vos femmes, Orhan Pamuk, et surtout pas des hommes. Elles disent, alors qu'ils ne jurent que par Allah, la patrie, la morale, est-ce juste qu'ils ne pensent à rien d'autre que gagner de l'argent? C'est l'une des trois sœurs qui s'étonne, car il y a trois sœurs dans ce livre. Vous êtes devenue féministe, Orhan Pamuk?
Après avoir passé 6 ans à écrire ce roman, mes lecteurs et mes lectrices, n'oublions pas mes lectrices, 70% des lecteurs des romans dans le monde sont des femmes. Eh bien, Monsieur Pamuk, il faudrait peut-être que vous deveniez un peu féministe. Et ma réponse très candide, c'est mais vous savez, moi, je ne suis pas un professeur féministe de Columbia. Je suis un féministe de rue turc. Je n'ai écrit que les choses simples que je vois. Par exemple, je faisais de la recherche pour ce livre, je mangeais du poulet et au riz dans les rues, et quand je mangeais mon sandwich, j'avais des conversations avec les vendeurs de riz et de poulet. Et je lui demandais, où est-ce que tu as acheté ça? Et il me disait, ben moi j'achète ici, ça c'est comment je le fais, comment je le prépare, comment je le cuisine. Et les poivrons. Ah ben voilà comme ça. Et finalement, comment est-ce que tu laves tous les plats? Ah ben c'est ma femme. Et finalement, c'est ma femme qui trouve le poulet, c'est ma femme qui trouve les poivrons, c'est ma femme qui s'occupe de tout, c'est ma femme qui fait la cuisine. Et c'est le début de mon féminisme très simple. Mais ça aussi, c'est très important. Deuxième chose extrêmement importante aussi, c'est quelque chose de sentimental qui m'a attaché à mes personnages. C'est ma maman avait une sœur aînée et une sœur cadette. Et elles aimaient se rencontrer et bavarder au sujet de leur maisonnée, plaisanter leur mari. Et j'adorais écouter ça. Et donc, voilà, c'est personnages qui sont dans mon livre sont d'une classe inférieure à la mienne, mais l'esprit de la conversation y est.
Alors d'accord, Anne Pamuk, mais vos femmes, elles ne font pas que cuire du riz, préparer la boza, le yaourt. Elles se sauvent, elles s'évadent parfois. Quand elles veulent se marier, elles le font à la barbe de leur père. Quand elles en ont assez de leur mari, elles s'enfuient avec un autre. Je cite Samiha, qui est, en fait, il y a 3 sœurs, mais Samiha, Raya et Velia, voilà, ce sont 3 sœurs. Et Samia, qui est la plus jeune, qui est la plus belle d'ailleurs, elle dit un moment, moi, je me marierai avec l'homme que j'aime et à qui je me donnerai, d'accord. Je n'ai pas regardé l'argent, j'ai écouté la voix de mon cœur et j'assumerai jusqu'au bout les conséquences de mes actes. Comment elles ont réagi en Turquie, les femmes qui ont lu ce livre et qui ont suivi la trajectoire de ces 3 sœurs, qui n'hésitent pas à fuir leur mari ou leur père pour s'en aller avec d'autres hommes?
Vous savez, après l'âge de 60 ans, je deviens un petit peu féministe. Et quand je suis en Turquie pour promouvoir ce livre devant les femmes qui étaient présentes dans le public, eh bien, elles m'applaudissaient de façon assez naïve. Et bon, alors, qu'en est-il de ces filles qui s'enfuient avec leurs garçons? On peut dire très tranquillement que au milieu du 19e siècle, Flaubert a inventé une sorte de roman dans lequel la vieille société était en train de mourir et une femme était malheureuse dans son mariage et s'enfuyait et avait des affaires. Madame Bovary, Anna Karenina. Et voilà, c'est la version turc de l'histoire. Moi, je suis certain que 50 ans plus tard, quelques universitaires va trouver la version musulmane turque. C'est pas que la femme trahit son mari parce que sans ça, elle serait assassinée. Mais une femme qui n'est pas d'accord, qui n'est pas heureuse dans son mariage, s'enfuit avec son amoureux. C'est la femme qui refuse les contraintes religieuses, les contraintes. En fait, c'est pas après le mariage, c'est avant le mariage. Elle se tourne vers d'autres projets, comme une sorte de liberté existentialiste. Et c'est le thème le plus classique dans les films turcs, dans les romans turcs. Il y a aussi un côté laïque, mais c'est vrai, c'est la chose la plus commune. C'est fondé sur l'idée qui m'est venue, parce qu'un vendeur de rue m'a dit, ah oui, lui était très 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 fier parce que lui avait refusé tout ce que voulait son environnement et qu'il s'était enfui avec sa fiancée. C'est très politique dans ce sens-là.
On va marquer une pause avec vous, Orhan Pamuk, et on va écouter le premier titre que vous avez choisi. Vous avez choisi Pepino di Capri. On écoute tout de suite.
France Culture, le temps des écrivains, par Christophe Onodibio.
In settembre mi dicevi tu non m'ami più e fu così che in settembre il sorriso tuo
Pepino di Capri, le titre c'est Mélancolie, c'est le premier choix musical d'Orhan Pamuk qui passe cette heure avec nous pour son nouveau roman, Cette chose étrange en moi, qui paraît chez Gallimard et qui est traduit du turc par Valérie Gay Aksoy. D'ailleurs j'en profite pour saluer Michel Zlotowski qui vous interprète Orhan Pamuk. Pourquoi ce choix, Pepino di Capri?
When I was writing Snow, Pepino di Capri coincidentally came to Istanbul.
Pepino di Capri est venu à Istanbul pour donner un récital, un concert. Et depuis, moi, je suis quelqu'un de nostalgique. Je dis ça à mes éditeurs italiens et ils rigolent quand je leur raconte que je suis allé écouter Pepino di Capri. Et moi, j'étais très sérieux là. Mais bon, il y a une petite ironie là-dedans. Écoutez son morceau, Mélancolie. C'est mon sujet, Usun, c'est la mélancolie en turc. Et je dis dans mon livre Istanbul que la moitié étant autobiographique, c'est une tentative de décrire l'esprit de la ville en le voyant du point de vue de son paysage. Parce que moi, au début, je voulais être peintre. Entre l'âge de 7 ans et l'âge de 20 ans. Et je peignais à la Utrillo, à la Pissarro, des scènes de rue de la ville. Je prenais des photos, et exactement comme Utrillo, moi je n'avais pas assez d'argent pour acheter des toiles. Je peignais sur des cartons.
Thank you for supplying the word, by the way. I forgot.
J'ai oublié le mot toile, et merci de me l'avoir rappelé.
Alors c'est vrai que vous parlez beaucoup d'Istanbul, hein, vous dites que vous avez avec cette ville la même relation qu'avec votre corps. Ça fait maintenant 40 ans que vous écrivez des livres, Orhan Pamuk, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vu votre ville passer de 1 million d'habitants à 15 millions d'habitants. Avez-vous, malgré la situation politique de ces dernières années, toujours le même plaisir à vivre à Istanbul, qui est donc la ville où se passent la plupart de vos romans?
C'est ma relation avec Istanbul qui est très compliquée. Je ne veux pas la rendre plus douce. Il y a parfois où je suis très en colère, où je m'enfuis. Il y a des fois où je suis très content d'y être. Et ce que vous avez dit sur le fait de grandir dans une ville qui est passée de 1 million à 16 millions, c'est vraiment quelque chose de tellement différent. Vous savez, moi j'étais à l'intérieur de cela. Très très peu de personnes dans l'histoire de l'humanité ont pu avoir ce genre d'expérience. Donc moi j'en suis très heureux. Et la ville change. Mais d'un autre côté, je voulais de façon très consciemment, moi j'étais au sein de gens d'une société à l'occidental, occidentalisée, de classe moyenne, qui parlait, ah oui, le bon vieux temps. Mais aussi, c'était une époque où il y avait une armée laïque qui tenait les gens en place. Et moi, je ne voulais pas être nostalgique de ce Istanbul des classes moyennes. Moi, je voulais écrire quelque chose, une épopée sur le grand Istanbul. Et maintenant, je me vois maintenant dans mes premiers romans, je l'écrivais du point de vue de ma famille, ce que je connaissais moi en tant que classe moyenne. mais en devenant plus mûr, mon cercle s'agrandit de plus en plus et j'en suis heureux. Je suis vraiment à l'aise du fait de connaître les autres classes sociales. Mais quand j'étais plus jeune, je n'étais pas conscient de ma classe sociale et à quel point je représentais ma classe sociale. Et parce que c'était une responsabilité politique de pouvoir écrire sur d'autres que je n'avais pas à l'époque. Maintenant, je sens que j'ai cette force, cette énergie d'aller vers d'autres sentiments généré par ma ville. Au cœur de ce livre, et je m'en souviendrai toujours, c'est mes promenades avec Asla, ma copine, dans les quartiers les plus pauvres, les plus lointains, suivis par des gardes du corps. On le faisait le samedi, le dimanche, parce qu'elle travaillait, et c'était un tel plaisir de souvenir, de se rappeler de ces promenades dans les quartiers obscurs de la ville. Maintenant, en tant qu'écrivain d'Istanbul, je me suis auto-imposé une mission de représenter ma ville. D'un autre côté, je ne veux pas le faire à la Émile Zola avec une grande distance. J'aime beaucoup Émile Zola, mais moi je dois dire que je veux aussi être mon Mevlut sur le plan des sentiments, sur le plan politique, faire partie de cette ville. Et le défi pour l'écriture de ce roman, je l'ai ressenti très profondément, c'était que j'étais à la fois un anthropologue et un historien, oui, véritablement. J'accepte ça, j'accepte cette définition. Et je voulais aussi être un poète lyrique. Mettre toute cette information dans une façon nouvelle. Voilà pourquoi ça a pris probablement 6 ans.
Mais pardon, Orhan Pamuk, mais est-ce que justement les changements politiques de ces dernières années, ce qui s'est passé en Turquie, est-ce que ça n'a pas modifié quand même ce rapport à la ville? Il vous est arrivé de la quitter, cette ville, il y a quelques années. Vous êtes parti parce que votre vie était en danger. Pourquoi être parti alors? Et aujourd'hui, pourquoi revenir? Parce que, évidemment, on sent que c'est réfléchi, en fait, cette idée de rester à Istanbul, malgré ce qui se passe.
J'ai quitté Istanbul tellement, et je suis revenu à chaque fois. La première fois que je l'ai quitté, je suis allé avec ma première femme qui faisait son doctorat. C'était dans les années 80, et tout le monde a dit « Ah, vous revenez? Pourquoi vous revenez ?» Parce que quand on va en Amérique, on ne revient jamais.
Mais
ma deuxième visite aux États-Unis, c'était en 2005, quand j'ai dit quelque chose sur les Ottomans, les Arméniens, et tout le monde m'attaquait. Tous mes amis disaient « Orhan, Orhan !» Il faut absolument trouver quelqu'un en Europe et s'enfuir. Et donc, je me suis enfui. Mais je suis revenu. Il y a eu un procès, etc. Mais bon, cette fois-ci, et à chaque fois, tout le monde me demande, Orhan, pourquoi est-ce que tu restes? Et personne ne me dit maintenant de partir. Et donc, je me suis posé la question. Peut-être que je vais demander aux gens, est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Et 50% des gens disent, reste, on se sent mieux, c'est pas fini, mais... Et d'autres disent, non, il faut t'enfuir. Ça, c'est des méchants, hein. Ils peuvent vous faire des choses terribles. Et donc, moi, j'étais vraiment... Je ne savais pas. Et finalement, je suis resté. Et une raison, peut-être très personnelle, et je suis attaché aussi à mon ami. Et on en parle à chaque instant.
Oui, mais vous auriez pu l'emmener avec vous, en partant. Rien n'exclu.
Oui, mais elle dit, moi j'ai mon bureau, j'ai mon travail ici, il y a tellement de ma vie à Istanbul. Il y a des discussions sans fin à ce sujet.
Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons? C'est très louable, effectivement. Vous nous dites, par amour, je reste, mais évidemment, vous êtes prix Nobel de littérature. Évidemment, les choix que vous faites...
Je ne dirai jamais ça. Dès que vous l'avez dit, ils veulent... absolument prouver que personne n'a de privilège en Turquie.
Donc il faut comprendre ce choix de rester uniquement par amour ou est-ce qu'il y a quelque chose d'éthique ? Vous avez parlé tout à l'heure du devoir éthique du romancier. Est-ce qu'il y a aussi un choix éthique dans le fait, ou peut-être de l'optimisme façon Mevlut, dans l'idée de rester et de suivre les 50% qui vous ont dit « reste » et pas les 50% qui vous ont dit « pars ».
Yes, in the end, I...
Finalement, je dois être optimiste. Je vais vous donner quelques chiffres. Après le coup militaire, le coup d'état militaire de l'année dernière, plus de 50 000 personnes ont été licenciées. Et ces gens-là n'auront jamais de travail. Pas tous, mais enfin certains se sont suicidés. 50 000 personnes ont été emprisonnées pour avoir été impliquées dans ce coup d'État. Et on n'en savait rien précédemment. 180 journalistes sont en prison et... pour se sentir normal, écrire son roman, prendre son petit déjeuner, parler à ses copains. Il faut vraiment être optimiste. Il faut être ultra optimiste pour voir la lumière à la sortie du tunnel. C'est comme ça que s'est passé mon été. J'ai travaillé tellement pour éviter d'être déprimé. Et moi, j'ai des amis en France qui sont déprimés et qui planifient des départs. D'autres sont extrêmement en colère. D'autres disent que le gouvernement a raison. Mais j'ai eu de très longues interviews avec les grands journaux avant le référendum d'avril. Et bien sûr, j'ai exprimé mon choix politique. Je dirais non au gouvernement et n'ont pas publié mon interview. Et je ne peux pas être très en colère avec les rédacteurs en chef qui m'ont appelé et qui m'ont dit on a eu tellement de pression qu'on ne peut pas publier l'interview.
Est-ce que c'est intéressant ou plus préoccupant pour un romancier? Vous avez parlé de Voltaire tout à l'heure, vous nous avez expliqué comment vous travaillez, en vous documentant beaucoup, en écoutant les travailleurs de rue, d'être parfois confronté à une sorte de fable qui est malheureusement la réalité, ou par exemple, vous l'aviez dit vous-même, vos amis Mehmet Altan et Ahmet Altan, vous aviez dit à l'époque, publiquement, « En Turquie, la liberté de penser a vécu, je suis en colère et très déçu de ce que mon pays est devenu. » Et vous aviez parlé d'un État basé sur la peur. On a l'impression parfois d'être chez George Orwell. Qu'est-ce que ça fait comme romancier quand on est confronté à une situation qu'on a lue parfois dans des romans, dans 1984, où tout le monde est accusé de terroriste alors qu'il n'y a rien de terroriste?
On en parle tout le temps. D'abord, il faut en parler tout le temps. Et en fait, hier, j'ai vu un ami turc, et on a parlé de politique sans arrêt. Qu'est-ce que vous pensez qui va se produire, etc., etc. Et personne ne peut prédire ce qui va se produire dans un mois. Finalement, on vit sa vie. Et il y a beaucoup d'énergie qui est éparpillée avec la peur, avec les rumeurs. Et peut-être, moi, j'ai de la chance que je suis un écrivain établi et qu'il y a des éditeurs qui publient mes livres. Et moi, je refuse de partir. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve des raisons. Mais on va voir. Mais on ne peut rien prédire. Il ne faut pas provoquer la colère ou provoquer d'autres choses négatives. On va voir. Moi, je navigue parmi ces écueils.
Vous allez écrire peut-être un roman. C'est vrai que cette chose étrange en moi s'arrête au début des années 2000, 2010 à peu près. Vous allez écrire sur toute cette situation, puisque Istanbul est en train de changer aussi.
J'ai tellement de plans en tête. J'ai, non pas avec le même personnage, mais avec le même état d'esprit, écrire un roman comme Neige. Des gens qui se rencontrent dans une ville, mais vous savez, c'est la politique turque dans les années, à la fin des années du XXe siècle, début du XXIe. Mais moi, quand l'AKP est est au pouvoir. Vous savez, à l'époque, quand j'ai écrit Neige, il y a une pression de l'armée et des laïcs. Là, les partis islamiques sont au pouvoir. Et là, en un an, tellement de choses se sont produites. Et ce que j'ai à l'esprit aussi a changé. Voilà, c'est le problème avec d'écrire sur l'actualité. L'actualité bouge beaucoup plus vite que ce que vous avez dans l'imagination. Il ne faut pas tenter de rattraper l'actualité, mais de regarder l'esprit des choses et inventer quelque chose de plus allégorique. Vous savez, Neige, c'est toujours là en tant que livre. Et une fois que le problème politique est oublié, ben, votre livre aussi peut être oublié.
Est-ce que ce livre, cette chose étrange en moi, on l'a dit, bon, les femmes, on entend les femmes, on suit Mevlout à travers les rues de cette cité qui change, et on découvre un clan, d'ailleurs, vous l'appelez comme ça, le clan Voural, le clan de Haji Hamid Voural, qui est un personnage très important, une sorte de godfather, de patron, extrêmement pieux, extrêmement capitaliste aussi, qui construit des mosquées, qui construit des gratte-ciels. Est-ce que ce livre, Orhan Pamuk, était aussi fait pour faire comprendre aux lecteurs à la fois ce qu'était devenu la Turquie, mais aussi la montée en puissance de l'islam politique, parce que Haji Hamid Voural, il est à la fois promoteur, et puis il tient des grandes conversations religieuses sur le mariage, par exemple. Il a une phrase, « Si les gens se connaissaient un peu avant le mariage, la plupart d'entre eux ne tomberaient jamais amoureux. C'est la raison pour laquelle notre saint prophète ne jugeait pas convenable les rapprochements avant le mariage. » Est-ce que ce livre aussi nous aide à comprendre ce qu'est devenu la montée de l'islam politique dans ces transformations d'Istanbul ?
Je parlerai de l'islam politique plus tard, mais Haji Hamid est basé sur un ami de mon père. J'avais un ami et sa famille venait de la région de la mer Noire. Il avait 19 ans, son père était religieux, il venait à l'école avec une Mercedes. Mais son père a commencé en tant qu'épicier, garçon de course dans une épicerie dans les années 40 à Istanbul. Et son fils, voyez-vous, il arrivait à l'école en Mercedes. Donc, cette mobilité de la classe, des classes sociales à travers la construction. Sa mère avait sa tête couverte, par exemple. Et la mère de Haji Hamid nous versait du thé sans cesse. Mais ce personnage, c'est véritablement un personnage et qui est très très bon dans l'explication de l'islam politique, de la montée du conservatisme moderne, où c'est des gens qui font du BTP, qui font énormément d'argent, ils viennent des petits villages, ils tentent de s'adapter à la ville, ils ont une Mercedes à la ville, et ils vont 5 fois par jour avec la famille à la mosquée, et demandant à son fils de le véhiculer à travers la ville. Moi, j'ai pas tout mis dans le livre, hein, c'est impossible.
Mais c'est étonnant, parce que Mevlout, par exemple, votre personnage, parce que c'est aussi l'époque de la montée, vous parlez de la conquête de la mairie d'Istanbul par Erdogan, et en fait, Mevlout, il n'y a que Ferhat. Ferhat, lui, il parle politique, il est engagé à l'extrême-gauche, très attachant personnage, Ferhat. Mevlout, il parle pas de politique. C'est son côté candide encore.
First, I believe in my naive Mevlout.
Moi, je crois dans mon Mevlout naïf. Moi, je suis un peu Mevlout aussi. Mais n'oubliez pas que Mevlout, c'est un vendeur de rue. Et un vendeur de rue ne doit pas avoir d'opinion politique en public, parce qu'à ce moment-là, vous allez perdre vos clients. Mais Mevlout, de la façon des romans classiques, prend la main parce que il aime bien ses copains chiites alévis, anti-gouvernementaux. Et ses cousins, comme Haji Hamid, sont des bons commerçants. Ce sont des gens qui sont vraiment d'extrême droite, des militants d'extrême droite. Mevlout a besoin d'eux. Il a besoin de leur aide. Et mon personnage assiste aux leçons d'une loge soufie, non pas pour des raisons d'islam politique, mais pour la simple raison que, par exemple, Woody Allen va voir son psychanalyste à Manhattan et qu'il se sent mieux après l'avoir vu. Et c'est ce que j'aime bien chez Mevlut. Les partis politiques, la gauche et l'ultra-droite ou les nationalistes, il les fréquente. Il les garde loin l'un de l'autre. Parce que les gens de la droite vont lui dire « Ah, ne parle pas à ce communiste ». Les communistes vont lui dire « Ah non, ne parle pas à ce fasciste ». Donc lui, il évite toutes ces discussions. Mais c'est comme ça qu'est la vie pour beaucoup de gens en Turquie, à Istanbul, principalement dans les grandes villes, lorsque la polarisation telle qu'elle existe dans le pays, et c'était comme ça au cours de la dernière décennie, avec la montée de l'islamisme politique, et les gens... les laïcs sont très en colère, et moi j'en fais partie. Cette polarisation, c'est ça. Et donc, on parle de quoi ? On parle de ça sans cesse. Voilà.
Mais on a l'impression que Mevlut, il mange un peu à tous les râteliers. Alors, je ne sais pas comment Michel va traduire.
Mais oui, Mevlut a aussi une autre source d'inspiration. Il est naïf. Vous savez, comme le soldat Schweik. C'est un opportuniste. Mevlut, l'opportunisme de Mevlut est très naïf, alors que celui du soldat Schweik. Non, c'est différent.
Il paraît, Orhan Pamuk, que vous avez, puisque vous avez recherché, vous avez parlé aux vendeurs de rue, que vous avez une banque de données sur les vendeurs de rue d'Istanbul. C'est une mine pour des prochains romans.
Ouais. I like to talk, for example,
mais j'aime parler aux chauffeurs de taxi, et parfois ils me reconnaissent. Et ils aiment bien aussi bavarder avec moi. Ils me parlent de ci, ils me parlent de ça. Et moi, je parle aux gens et je fais des interviews. Quand j'écris, par exemple, Ulysse, par exemple, hein, mais aussi les dolmouches. Il faut savoir ce que c'est que les dolmouches. Il y a 5 personnes qui partagent le même taxi. Et donc ça, c'est un espace public. Et ils ont des conversations. Dans mon enfance, des gens avaient des conversations qu'ils ne connaissaient absolument pas dans les taxis collectifs. 6 personnes. Mais moi, je parle aux chauffeurs de taxi en faisant des sortes de reportages. C'est mon travail. Je ne sais pas si ça va arriver à être un roman. Non, mais moi, voilà, je garde toutes ces conversations et j'aime ça. Moi, j'ai, disons, une inclination et une imagination encyclopédique, mais il faut avoir de l'imagination, ça ne doit pas être systématique, ça doit avoir ma naïveté aussi. Tous ces projets sont infinis. Certaines personnes deviennent vraiment très en colère parce que, voilà, je travaille pendant 6 mois sur un projet et puis j'oublie la personne. Par exemple, le minaret, vous savez, en face de mon bureau, a été détruit brique par brique et reconstruit. Et moi, je l'ai photographié parce que c'était juste en face de moi. Un jour, je pourrais peut-être quelque chose avec ça. Peut-être que rien ne sortira de ça, mais c'est une archive, voilà.
On va marquer une pause pour écouter votre deuxième choix musical, Orhan Pamuk. Vous avez choisi Ouverture 1812 de Tchaïkovski. On écoute. Ouverture 1812 de Tchaïkovski, c'est le choix d'Orhan Pamuk avec qui nous passons cette heure. Il publie son nouveau roman chez Gallimard, Cette chose étrange en moi qui raconte 30 ans de transformation d'Istanbul à travers le regard d'une pléiade de personnages, dont Mevlut, une sorte de Candide, de poète aussi, qui marche dans la rue, un vendeur de rue, de yogourt et de boza. On est loin de Ouverture 1812 de Tchaïkovski, Orhan Pamuk.
Because the spirit of
non, mais l'esprit que j'ai donné à ce livre, c'est très proche de mon premier roman, Chef d'Edbeï et ses fils. À cette époque, mon modèle, c'était Tolstoï. Une grande épopée avec beaucoup, énormément de détails. Et je suis fier de dire que ce livre, cette chose étrange en moi, est une épopée de micro-histoires, de petits détails de la ville d'Istanbul. Mais quand j'écrivais mon premier long roman, et ça a aussi pris 6 ans à écrire, après avoir travaillé jusqu'à 4h du matin, j'écoutais ce passage, et c'est exactement ce que le roman décrit, l'invasion napoléonienne de la Russie. Mais certaines parties de la musique m'ont donné un sentiment de totalité, de grandeur, de la vastitude du monde, le sentiment plaisant d'appartenir à cette chose énorme. Ce sentiment aussi que j'ai quand je nage. J'ai un sentiment religieux qui m'arrive. Je fais partie du monde. Je suis heureux d'être en unité, en union avec tout. Ce sont des idées borgésiennes, panthéistes, que j'aime beaucoup, qui m'aident, mon imagination encyclopédique. Donc après, j'écris tous ces petits détails, et pendant que tout le monde dort à la maison, j'écoute ça au casque, j'ai un petit whisky, et je pense à ma vie. Ah, oh, ça c'est superbe d'être écrivain.
Alors précisément, ça c'est intéressant, parce que moi il y a un roman qui me passionne chez vous, qui est le Musée de l'innocence. Pourquoi il me passionne? Parce qu'en fait, le roman a été dépassé ou complété par un musée. Le Musée de l'innocence était l'histoire d'une passion amoureuse telle d'un homme pour une femme qu'il avait demandé à ce qu'on collectionne pour lui tous les objets de cet amour. Et par exemple, les 4000 ou 4000 et quelques mégots de cigarettes qu'avait fumé cette jeune femme qui s'appelait Fuzun, c'est ça? Et parce que chaque mégot de cigarette renvoyait à un moment, ils avaient fait l'amour, elle avait fumé une cigarette, ou ils avaient mangé une glace à la cerise, et en fait le mégot était taché en fait de reste de cette couleur de cerise, où ils s'étaient disputés et elle avait fumé rageusement une cigarette. Ils collectionnaient tout ça. Et vous en avez fait de ce roman un véritable musée dans le quartier de Çukurcuma. On a eu l'occasion de le visiter ensemble, Orhan Pamuk. Et je dis juste pour les auditeurs, en fait, quand on entre dans ce musée, on est face à des vitrines. Chaque chapitre du roman est dans une vitrine, en fait, muséographiée, à tel point que, par exemple, dans le chapitre où le personnage décrit comment son père se rasait, vous avez reconstitué le lavabo, vous avez demandé à des amis designers... Pour le lavabo, magnifique. Mais le savon à barbe, par exemple, il y a la robe que porte Fuzun, et vous dites quelque chose qui m'a profondément marqué. Vous dites, quand j'écris sur une robe, j'ai besoin d'avoir cette robe entre les mains. Et la question que je voudrais vous poser, c'est vrai, il y a l'encyclopédie dans vos livres, il y a ces objets, les things dont vous parlez. Vous ne faites pas confiance en l'imagination du lecteur?
Ok, first, I have to say this.
Things, je dois vous dire d'abord, les objets ont une aura. Chaque objet que vous avez dans votre vie a une aura. Et s'il y a un devoir d'être écrivain, c'est de découvrir l'aura des objets et vraiment de le décrire précisément. Mais que se passe-t-il quand il y a un millier d'objets pour lesquels il faut trouver une aura? Donc il faut trouver un millier de petites histoires qui constituent un roman. La logique du Musée de l'innocence, à la fois en tant que roman et en tant que musée physique, c'est que l'idée, c'était de faire un musée des objets du quotidien d'Istanbul et d'écrire une histoire qui les relie. Et un catalogue du musée sera réalisé si moi je peux mettre les annotations dans une séquence telle que et de les décrire brièvement de telle façon que un catalogue annoté se lira comme un roman. Et si vous effacez les images, le catalogue devient lui-même un roman. C'est le concept, c'est l'idée du musée de l'innocence. Mais comme je me le dis à moi-même, il y a 15 ans, personne ne l'aurait cru.
Oui, mais si on regarde par exemple cette chose étrange en moi, on pourrait se dire aussi que, avec tous les objets que vous décrivez, les je secondo, tous les objets, les voitures, les mets, the meal qu'il mange, est-ce que tous les romans sont des musées pour vous, Orhan Pamuk?
Yes, human heart.
Oui, le cœur humain a un concepteur pour pouvoir protéger les choses qu'on utilise dans la vie. Oui, on met nos vies sur un piédestal. Nous sommes éphémères. Nous savons que nous allons disparaître. C'est vraiment nos vanités, les statues, les musées, l'art, la littérature, tout cela, c'est ça.
Let me put it this way.
Disons-le autrement. Ces romans, et ce roman, cette chose étrange en moi, est aussi une épopée des micro-histoires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'avais 7 ans, on ne pouvait acheter des yogourts que chez les vendeurs de rue qui portaient ça sur leur épaule. Et puis, il y avait les premiers yaourts dans les petits pots. Et puis, voilà, si quand vous laviez le petit pot, on avait un verre à la maison. Et puis, il y avait l'époque de la publicité, il y avait des camions qui apportaient les yaourts. Et les pauvres vendeurs de rue ont disparu. Mais moi, je rends cela à travers des tout petits détails. Moi, j'ai gardé un de ces petits pots de yaourt. Toutes nos vies sont basées sur des petites micro-histoires.
Nathalie
Ginzburg, le fils de Nathalie Ginzburg, a inventé la micro-histoire. Il fait attention à des petits vers du fromage, par exemple. Et il en a déduit des choses énormes. Et moi, j'aime cette idée que nos vies sont basées sur des tout petits détails. Si on y fait attention...
Et là, Orhan Pamuk montre l'eau, la bouteille d'eau qui est devant lui.
Et donc, à ce moment-là... Oui, la littérature, c'est oublier le côté physique de l'objet et le décrire seulement en mots. Et qu'est-ce qu'il y a de mal si je garde l'objet et si je le montre et si j'en parle d'une façon différente? Sur le plan ontologique, je change les choses, donc j'en suis heureux. Et si je rate, bon, tant pis, mais j'essaye quand même.
Alors certes, Orhan Pamuk, vos livres sont pleins d'objets, mais ils sont pleins d'amour. Je vais citer un passage du Musée de l'Innocence. À la vue de tous ces objets disposés sur leurs étagères, dans des boîtes et des vitrines, en se rendant compte de l'attention avec laquelle j'ai observé Fusun, 8 ans durant, à l'heure du dîner, sa main, son bras, l'ondulation de ses cheveux, sa manière d'écraser ses mégots de cigarette, de froncer les sourcils, les visiteurs sentiront que l'amour est fait d'une constante attention, d'une immense tendresse. Vous parlez aussi... et admirablement, de sexe aussi, de la façon dont les corps font l'amour et les esprits font l'amour. Par exemple, le moment le plus heureux, disait le héros du Musée de l'Innocence, fut celui où il pénétra Fusun. À la fin du livre « Cette chose étrange en moi », la dernière phrase, je ne vais pas du tout spoiler, comme on dit, l'intrigue. Exactement. Il dit « C'était sa vision à la fois officielle et personnelle, l'intention de son cœur et de sa langue ». Dans ce monde, c'est Raïa que j'ai le plus aimé. Est-ce que Orhan Pamuk, finalement, face au chaos, face aux illusions politiques, est-ce que l'amour, la mémoire de ce qu'on a aimé, est-ce que c'est ce qu'on a eu de meilleur, comme on le dit dans l'éducation sentimentale?
Le meilleur, ce sont les récits. Nous vivons par les récits. Et nos vies changent, et nous ajoutons un aspect plus coloré et plus doux. Mais la meilleure partie de la vie, c'est de la raconter. Mais vivre, c'est mieux qu'imaginer des histoires. Mais il n'y a pas de vie sans récit. Et finalement, on devient amoureux. Votre amour devient un récit. Vous le couvrez de petits sucres. Vous dramatisez vos vies. Et finalement, je ne peux pas imaginer une vie sans récit. Je suis heureux d'écrire des récits grâce aux objets.
Et peut-être
le lien entre les choses, les objets et les récits, c'est plus intense quand il y a l'aura de l'amour.
Ce livre, ça sera ma dernière question, Oran Pamuk, cette chose étrange en moi, elle s'ouvre par trois citations. Une de William Wordsworth, où il y a justement cette idée de sentiment d'étrangeté que vous avez reprise pour votre titre. Il y a une phrase de Rousseau, puisqu'on est aussi dans une histoire de possession, de développement de la ville. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Et puis il y a une citation de Tchelal Salik, que je vais lire. « La profonde divergence entre l'opinion personnelle de nos concitoyens et les lignes officielles est la preuve de la puissance de notre État. » Et je voudrais qu'on termine là-dessus. Il y a eu un bon signe récemment. La romancière Aslı Erdoğan, qui avait été détenue pendant 132 jours, a pu récupérer son passeport le 7 septembre et devrait se rendre prochainement en Europe. Alors, pour terminer, êtes-vous plutôt inquiet ou plutôt optimiste comme votre bon personnage, Mevlut?
Il faut être à la fois inquiet, sans cesse. Quelqu'un qui n'est pas inquiet est idiot, mais il faut à la fois être optimiste et survivre et voir ce qui va se produire.
Tchelal Salik, il est souvent dans vos livres.
C'est le héros de mon livre noir. Je suis en partie Tchelal Salik, ironiquement, avec un petit peu d'ironie. Je l'aime bien et je lui suis reconnaissant. Il me donne des idées, il me donne des citations au début de mes romans. C'est tellement bien d'avoir des personnages que vos lecteurs aiment aussi. Et si certains de vos lecteurs aiment vos anciens personnages, c'est comme si ces personnages devenaient vos amis.
Donc, restez optimiste, ce sera le mot de la fin, Oran Pamuk.
Je ferai de mon mieux.
But not naive.
Yes, not be naive.
Non, c'est pas être naïf. Mais merci pour cette distinction. Je continuerai à survivre avec mon optimisme et nous allons voir.
Merci beaucoup, Oran Pamuk. Je rappelle. Je rappelle le titre de votre livre, Cette chose étrange en moi. C'est traduit du turc par Valérie Gay Aksoy. C'est publié chez Gallimard. Je mentionne aussi ce très beau cahier de Lerne. C'est important pour vous, ce cahier de Lerne. Il y a beaucoup de textes de vous, de John Updike sur vous aussi.
And also, I ventured and begin to publish my
artwork. J'ai commencé à publier mes œuvres d'art.
Je
suis très heureux que les éditeurs français apprécient mon art.
Oui, parce qu'il y a les dessins, je les montre ici, vous ne pouvez pas les voir, mais il y a les dessins d'Oran Pamuk, car vous avez voulu être dessinateur avant d'être écrivain.
Yes,
mais je fais ça quand j'ai bu un petit coup, j'ai un petit verre dans le nez. Toutes les répressions de l'histoire après deux verres de vin disparaissent et le peintre secret qui est en moi ressort. Ça, c'est le livre noir, oui.
Et vous publiez aussi un livre de photos sur Istanbul, chez Gallimard aussi.
Je suis heureux de cela. Ce livre a été publié en Turquie il y a 2 ans. Je continue à collectionner les photographies d'Istanbul, les vieilles photographies. Moi, je suis photographe aussi, un photographe amateur. J'ai pris 20 000 photos au cours des années.
Mais
je collectionne aussi des photographes. Et il y a beaucoup de collectionneurs de photos à Istanbul en raison de la faiblesse des droits d'auteur. Moi, j'ai ajouté deux doubles pages de photographies à mon ancien livre sur Istanbul. Maintenant, c'est une édition plus complète, plus somptueuse. Et je suis très heureux que Gallimard l'a publié aussi.
Et c'est important de donner des images aussi, encore une fois, qui viennent compléter les mots, comme si les mots ne suffisaient pas.
Maybe peut-être. Words are not enough. What's wrong with that?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?
Merci beaucoup, Oran Pamuk. Merci pour cette heure magnifique passée avec vous. J'en profite pour remercier aussi Michel Zlotowski qui vous a magnifiquement interprété. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec Héloïse Alluin. Anne-Laure Chanel à la réalisation. Prise de son Christophe Papon. Mixage Bernard Lagnel. Vous savez que vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter. Vous pouvez podcaster pendant 1 an et réécouter sans limite sur franceculture.fr, 7h avec le prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk.